va.
Venga, venga.
I am your father.
On laisse pas Pépino faire quoi.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonne année tout le monde, on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année.
Et on que se vous retrouve... avez encore des tympans.
Ouais, exactement, que vous avez encore suffisamment d'ouïe pour nous écouter.
Et une bonne gueule
cette...
de bois.
Alors, modérément, après, parce que, bon, on était quand même en couvre-feu, Marvin, donc j'espère que tu as respecté.
Oui, évidemment.
Donc, on espère que cette nouvelle année, même si j'ai du mal à y croire, mais on espère que cette nouvelle année va se passer un peu mieux que celle qu'on a vécue. Et que bah, on vous souhaite tout le bonheur du monde, hein, comme dirait l'autre. Tout ce que vous voulez, la réussite, l'amour, la richesse, la tendresse. On vous souhaite tous nos voeux et on espère qu'on va passer une excellente année ensemble et que vous allez passer une excellente année, vous, et un peu mieux que celle qui vient se dérouler. Et on va attaquer par une émission un peu plus feel-good, histoire de se mettre dans le bain d'une nouvelle année qui va repartir de l'avant. Et comme on vous l'a dit la semaine dernière, du coup, c'est un thème un peu Frenchy, mais c'est un thème qu'on va faire à quatre, avec notre meute de quatre loups, parce qu'on retrouve Marjorie. Marjorie, comment tu vas aujourd'hui?
Bah, ça va très bien, et toi?
Ça va très très bien, merci. T'as passé de bonnes fêtes?
Moi, génial. Voilà, enfin 2021, on est content.
Tant mieux, c'est le principal. Enfin, on va pouvoir tourner la page. Et vous deux, comment vous allez, les agneaux là?
Bah, très bien.
On va toujours bien.
Toujours?
Toujours.
Bah, c'est ce qu'il faut aussi. Donc, on est tous d'attaque à commencer cette nouvelle année et cette nouvelle émission, parce qu'on l'a dit. Marjorie, est-ce que tu as envie de nous présenter le thème du jour, s'il te plaît?
Alors, aujourd'hui, on va retracer quelques films du duo d'auteurs-réalisateurs d'Olivier Nakache et de Eric Toledano, pardon. Je présente les films, vite fait, brièvement, ou on le fait après?
Non, je pense qu'on va commencer un peu en musique.
Ouais, on va commencer en musique. Là, je me retourne encore une fois vers Marvin, parce que c'est quelque chose qu'on a envie depuis le début de l'émission, depuis très longtemps.
Diffusé du Michael Jackson.
Diffusé du Michael Jackson. Aujourd'hui, c'est du Michael Jackson.
On a eu l'occasion, donc on fonce. Hein.
Ouais, on l'a pas raté celle-là. Et on se retrouve tout de suite après sur Ciné 7.
Tell you where I'm at.
une bonne musique qui réveille et qui donne envie d'attaquer l'année du bon pied et de partir sur des bonnes bases. C'est la musique d'intro, du générique d'intro du film Nos Jours Heureux, le premier film dont on va parler aujourd'hui. Donc comme le titre l'annonce bien, c'est un film feel good qui retrace l'histoire de Vincent, joué par Jean-Paul Rouve, qui est directeur d'une colonie de vacances. Et le film va se dérouler sur les 3 semaines de la colonie de vacances qui se passe dans
une petite campagne,
dans la Charente, parce qu'il visite les Charentaises, donc ça doit être dans la Charente. Et puis voilà, c'est ça un peu le scénario du film. Après, il y a les intrigues un peu générales des colonies de vacances qui vont se dérouler. Et puis, c'est très drôle et c'est sans prise de tête aussi.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nakash et Toledano se sont rencontrés alors qu'ils étaient animateurs eux-mêmes de colonies de vacances. Ils étaient dans une association qui aidait les enfants en difficulté à partir en vacances. Et ce film, avant d'être un long métrage, c'était un court métrage qui s'appelait « Séjours heureux ». Donc, vous avez peut-être vu les t-shirts que portent les animateurs. C'est écrit « Séjours heureux », pas « Nos jours heureux ». Ça vient de là.
C'est bon à savoir.
Ouais. Dans l'histoire, c'est le nom de la compagnie de colonies de vacances. Ouais. « Séjours heureux ».
Qui lui est sorti en 2002 et Nos Jours Heureux en 2006. Donc ils ont eu le temps de maturer un peu le projet.
D'accord. Et puis donc tu disais c'était de l'aide aux enfants, c'est ça ?
Oui, c'était une association qui aidait les enfants à partir en vacances l'été et ils se sont rencontrés comme ça.
Des thèmes qu'on va retrouver assez récurrents.
Moi j'ai une question, est-ce que l'un de vous trois a déjà fait une colo justement ?
Oui, alors... en tant qu'animatrice pour ma part.
Oh.
Du coup, c'est un film qui, depuis que j'ai fait ce travail, me parle beaucoup plus parce que je pense que tous les animateurs qui vont nous écouter vont se reconnaître et vont reconnaître les tourments que c'est d'être un peu...
J'imagine que ouais, ça doit marquer.
Bah, je pense ouais, quand t'as vécu ces choses-là et que je pense que c'est assez authentique dans ce film-là, je pense que t'es un peu plus, impacté quoi, émotionnellement.
Là, à mon avis, il doit y avoir quand même plein d'anecdotes. S'ils ont été animateurs de colo, il doit y avoir plein d'anecdotes qu'ils ont vécues eux-mêmes, c'est sûr et certain. Enfin, puis on voit l'archétype quoi. Il y a le gosse qui a pas envie de partir, celui qui est un peu rebelle, celui qui est un peu débile,
celui qui se blesse tout le temps.
Voilà,
c'est après moi j'ai pas fait de colo, c'est souvent ce que je retrouvais par exemple dans les classes vertes, admettons.
Ouais, c'est ça.
Dans les sorties un peu d'école, il y avait toujours à peu près ce genre d'élèves et du coup là je l'ai retrouvé dans ce film là.
Celui qui perd ses vêtements, celui qui se blesse, celui qui... enfin il y a...
Bah, ceux qui se pécho, enfin il y a pas mal de choses comme ça quoi.
Qui fait du vélo en slip au milieu de la nuit.
Celui-là, je sais pas, peut-être. Pour ceux qui l'ont vu.
Ça paraît tellement spécifique qu'on se demande si ça leur est pas arrivé du coup.
Ouais, je pense, parce que franchement, il doit se passer des choses.
Ouais, c'est tout à fait ça. L'écolo, c'est un vivier d'anecdotes quoi. Et c'est un peu le bon côté de ce film, c'est qu'il est très vrai. C'est des choses qu'on va beaucoup retrouver, des profils. Il y a toujours tous ces profils-là dans une colo, que ce soit les animateurs ou les enfants. La seule chose un peu moins vraie, c'est les petits passages très très rigolos de ce film. On n'a pas le droit d'insulter les enfants à ce point. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi ce film est connu, pour ses répliques plutôt cultes.
Oui. Joséphine Demeaux principalement.
Bah oui, bah clairement, c'est elle qui...
Elle porte le film au d'un moment. Il commence à se détacher de...
Il y a un sacré twist quand même avec ce personnage. Qui est quand même assez bien travaillé.
Et notons que c'est la première collaboration entre les deux producteurs et Omar Sy, qu'on va après retrouver dans Nos Jours Heureux, Intouchables et Samba.
Ouais.
Donc ça a été. Moi je trouve que je suis
pas Omar Sy. Ils n'ont pas travaillé aussi sur Demain nous appartient ou tout comme ça.
C'est quoi le téléfilm là tu parles ?
Non, pas le téléfilm, mais le film avec Omar Sy et la petite. Là,
ah oui, quand oui, avec la. Ah, oui, ouais. Je me rappelle plus du nom, mais oui, la mère abandonne la petite.
C'est ça.
Je suis pas sûr.
Ah,
je suis vraiment pas sûr que c'est eux qui sont à l'idée du projet ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu dans la même veine qu'Intouchables.
Ouais,
voilà, c'est à peu près dans la même veine. Ouais.
En tout cas, Omar Sy était à l'affiche du court-métrage aussi. Il a repris le même rôle.
D'accord.
Donc je pense que leur toute première collaboration vient de là.
Et on n'en a pas parlé, mais il y a un très bon casting hein, parce que du coup, on a dit il y a Omar Sy, il y a Joséphine Demeaux, il y a Jean-Paul Rouve, il y a Marie-Lou Berry. Bon, c'est les plus notables.
Et il y a un caméo de Olivier Nakash.
Oui, un caméo d'Olivier Nakache. En tant que.
Médecin.
Quand la petite Charlotte se fait 3 fois rien au poignet, au pouce.
Ouais, 3 fois rien. Là.
3 fois rien, en effet.
C'est un cas d'étude à présent.
Ouais. J'ai invité les stagiaires parce que là, c'est vraiment important.
Non, c'est vrai que c'est un film que quand on voit, c'est un feel good movie. Quoi,
ouais, c'est ça.
Tu regardes, t'es bien. Moi, perso, pour la petite. Je l'aime beaucoup ce film parce que, pour on va dire un peu parler perso, c'est le film que j'ai beaucoup regardé avec ma sœur étant petit chez ma mamie en DVD. et que je kiffe encore le regarder. Et même si j'ai pas été du coup attaché à tout ce qui est à tout ce qui est colo comme par exemple Marge, bah moi un peu plus déjà et sur ça et en vrai je kiffe. Enfin je kiffe beaucoup ce film pour ça.
Bah après, enfin même si on n'a pas fait de colo, c'est quand même comme tu le disais, c'est des anecdotes qu'on a quand même vécues, même même sans sortie scolaire, c'est des anecdotes qu'on retrouve en classe aussi. T'en as toujours un qui se casse le poignet à chaque fois qu'il joue au foot dans la récré. Enfin c'est des anecdotes qui nous font retomber en enfance et que on s'attache forcément à un des personnages au moins et on se voit évoluer avec. Et puis on parlait du casting aussi, j'en ai oublié un. C'est j'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Debitsi, c'est celui qu'on retrouve dans Neuilly sa mère.
Jeremy Denisty.
Je me suis fait la réflexion, je me suis dit on dirait l'acteur de Neuilly sa mère. C'est, j'avais pas son nom.
Ma chambre, tu l'aimes ou tu l'as quitté?
Et tu demandais avant l'émission si enfin il faisait bien accent belge, mais en fait il est j'ai vu qu'il est bien belge.
Ah bon.
Il est né à Bruges.
D'accord.
Donc voilà. Donc c'est normal qu'il ait un accent belge. Ouais. Parce que, bah, il est né à Belgique.
Puis on le retrouve dans le rôle du garçon un peu insupportable.
Ouais. Bah il a le même rôle.
On peut le noter, enfin mine de rien. Il était assez jeune lors du tournage et qu'il a un bon débit de parole, même s'il a appris son texte. Bah le type, putain, pour sortir des fois les, on va dire, toutes ces références et tout culturelles.
Clairement.
Il est bon quoi, il est bon.
C'est un très bon film. Et il y a une autre musique qui est assez emblématique de ce film-là. Ça se passe dans le camping quand ils partent faire du camping et qu'ils se retrouvent à jouer de la musique autour du feu. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Qui n'a pas rêvé en colo de jouer de la guitare comme ça pour se retrouver avec le même harem que Dis Guillaume dans sa tente. C'est sympa, ça marche bien, ce qu'on voit.
Pour lui, ça a bien marché.
Pour lui, ça a bien marché.
Pour le coup, ouais.
Je pense que dans la vraie vie, ça doit bien marcher aussi.
C'est pas moi qui vais dire, je suis incapable de jouer de la guitare.
Quand on l'a pas fait de colo, on n'en sait rien. Hein.
Ouais.
Il y a que Marche
qui peut savoir.
J'ai pas vu de ce genre de choses là.
Bon, dommage.
Elle veut pas nous lâcher les bails.
C'est ça. On repart avec ses secrets.
C'est exactement ça.
Tout à fait. Ce qui se passe en colo, reste en colo.
Sauf
comme dans ce film.
Ce qui se passe dans la ligne verte, reste dans la ligne verte. Bref, qu'est-ce qu'on voulait dire?
Et bah, vu que tu parlais beaucoup du casting, Kéliane, et bah, on peut rebondir sur Omar Sy.
Oui, une belle transition.
Qui va changer de rôle dans le prochain film, puisqu'on va parler d'Intouchables, qui est sorti en 2011, qui est un très beau film. Je vais pas être très objective pendant cette.
T'inquiète pas, je vais être
pendant
là-dessus.
Ce moment, parce que c'est mon film préféré.
C'est important.
Il est très primé, il est passé outre-Atlantique, donc il a vraiment marché à l'international. Et là, on va retrouver un Omar Sy beaucoup plus touchant, bien que toujours autant drôle, et parce que c'est la pointe Omar Sy, quoi.
Et j'avais juste envie d'écouter ça.
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Je trouvais ça marrant.
Okay.
Voilà, c'est sorti comme ça. Tout à l'heure, Marjo en parlait, c'est les petites phrases marrantes de Caroline. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur Intouchables, Marjorie.
Tout à fait. C'est parti avec donc le thème. Pour l'instant, on reste un peu dans le mélancolique. Ouais, après, on passera sur du plus joyeux, on vous le promet.
C'est une très belle mélodie au piano qui s'appelle Una Mattina.
Du coup, pour vous parler un peu plus en détail de ce qu'est Intouchables, même si je me doute que vous l'avez quasiment tous vu, c'est l'histoire d'un duo plutôt surprenant. entre un homme handicapé moteur, très handicapé moteur, et un homme de cité, un homme noir, si je peux me permettre, puisque c'est un peu ça, la force du film, c'est l'insertion sociale.
Oui, clairement. Mais on attendait le reste du résumé, Marjou.
Bah après, je ne veux pas trop non plus en dire, parce qu'il est quand même sympa à voir et à revoir.
Ouais,
à revoir. Parole
et
de
à
fan.
Revoir et à revoir et à revoir.
C'est un film qui est indémodable, c'est un film qui est intemporel, et c'est un film qui, comme on le disait, est aussi feel good, mais qui a la force de nous faire passer du rire aux larmes en quelques scènes.
Et en même temps, il tombe pas trop dans le pathos, c'est pas non plus... Enfin, il le dit lui-même, du coup, j'ai oublié le nom du personnage de François Cluzet.
Philippe.
Il le dit lui-même que ce qu'il cherche, c'est de ne pas avoir la pitié des autres. Ouais, parce que c'est la pire chose qu'on peut avoir quand on est dans sa situation, en fait, que les gens te regardent avec pitié. Et le film fait tout pour ne pas tomber dedans, pas tomber dans la caricature de « Ah, regardez, il est en fauteuil roulant, quelle vie de merde ». Au contraire, ils essayent de montrer tout le côté positif, tout ce qu'il peut avoir dans cette deuxième partie de vie, en fait, quand il réapprend à vivre. Et quand il réapprend à vivre en fauteuil, mais également quand il réapprend le bonheur et le sourire avec Driss.
Je crois que c'est important quand même de noter que c'est une histoire vraie.
C'est inspiré d'une histoire vraie, exactement.
Ouais. C'est important, je pense, de notifier. Et que c'est un film qui a énormément, du coup, comme l'a dit Marge, a énormément marché outre-Atlantique, qui est du coup en 2012. C'est ça que tu m'as dit, Jade, qu'il a le plus, en termes de box-office, c'est celui qui a le même plus marché que, par exemple, Harry Potter 2 et les Reliques de la Mort. Il y a eu un remake aussi qui a été fait en 2018 ou 2019 par Amazon Prime, avec Kevin Hart et Bryan Cranston, qu'on connaît pour Malcolm et Breaking Bad, qui est bon, mais qui est tellement moins bon que Intouchable, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un bon film, mais que si les Américains ont vu Intouchable, il y a carrément une différence, quoi. Après, c'est un peu la mode, quoi, pour les Américains de faire des remakes.
Après, nous, on est français aussi, donc forcément, on va être plus attaché à la version originale et à la version française, puisque on est quand même plus attaché à Omar Sy et François Cluzet que Kevin Hart et Bryan Cranston.
Et puis, je ne connais pas Kevin Hart, mais Omar Sy a quand même été choisi déjà parce qu'il avait déjà collaboré avec les réalisateurs, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans les cités, qui sait ce que c'est de venir de là et de devoir gravir les échelons pour devenir quelqu'un et pour faire sa place.
Et qui gravit tellement les échelons que maintenant, il vit à Los Angeles et qu'il tourne à Hollywood. Hein. Il est passé de l'autre côté de l'Atlantique avec le film, en même temps que le film.
Mais c'est comme François Cluzet qui joue du coup un homme quand même assez riche. Même si tétraplégique, je pense.
C'est ça.
Quand il n'y a que la tête, c'est tétraplégique. Il est quand même riche. Et je pense que François Cluzet, pour être un acteur, je ne pense pas que c'est le dernier des pauvres. Donc je pense qu'en fait, il joue quand même un rôle dans ce film. Les deux jouent un rôle, mais qu'ils ont quand même du background, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais en gros, ils ont un passé dessus, quoi, on va dire. Driss, qui est du coup qui est dans la cité, et Philippe, qui est du coup qui vit sa petite vie dans un château.
C'est ça. Et au départ, ça devait être Daniel Auteuil qui devrait jouer le rôle de François Cluzet. Il lui avait proposé, il était en discussion, puis finalement il a refusé. Et c'est pas le premier gros rôle qui refuse Daniel Auteuil, parce qu'il devait aussi jouer dans Bienvenue chez les Ch'tis, qu'il a refusé aussi.
Il devait jouer qui, Dadivoun ou Cadmerade ?
Non, il devait jouer, j'ai oublié son nom, celui qui fait C'est le Nord.
Ah, Galabru ?
Le pauvre Galabru, voilà.
Ouais, mais c'était un petit caméo.
C'est un petit rôle, mais
alors que là, dans Intouchable, c'était vraiment un gros rôle. Et je pense qu'il a regretté parce que c'est quand même un rôle majeur, quoi.
Et puis, c'est quand même deux des films français qui ont le plus marché de l'histoire. Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable, avec La Grande Vadrouille. Je pense qu'on a à peu près le podium des films français qui ont le plus marché en France, déjà.
Ouais, je pense que c'est ça.
Ouais.
Ce que j'ai noté, moi, c'est que Toledano et Nakash, ils ont quand même un rapport assez particulier à la musique. Donc dans Nos Jours Heureux, on a, c'est sans prétention, quoi. C'est des musiques feel good, on a des petites musiques histoire de rythmer le film. Dans Intouchable, on a quand même une musique qui fait le lien entre les personnages. Donc hors la musique que nous on entend, on a la musique que les personnages entendent eux. On a toute la scène avec la musique classique où Driss découvre la musique classique, tout ce qu'il connaît c'est la musique des acédiques. Et où du coup Philippe essaye un peu de faire sa culture musicale. Et à côté, c'est pas une relation à sens unique, puisque Driss également fait la culture de Philippe en lui faisant écouter des choses qu'il a jamais entendues auparavant, notamment Boogie Wonderland. Est-ce que ce serait pas le moment de la mettre ?
Comme vous voulez.
Ça fait un beau mélange culturel, on va dire.
Exactement. Donc on va pouvoir enchaîner avec Earth, Wind and Fire, qui sont les grands classiques et les grandes références de Driss.
Après cette petite interlude musicale, du coup, je rebondis sur les propos de Jade. En effet, ce film a une vraie identité au niveau de la musique. Elle est annoncée dès le début, parce qu'on commence dès le début avec le thème incontournable. Mais on va le comprendre petit à petit. Et pour rebondir sur la musique qu'on vient d'écouter, donc Boogie Wonderland, c'est pour cette musique que ce film a été critiqué en Amérique, puisque selon les Américains, cela dénotait un peu du racisme, parce que Omar Sy, donc Driss, serait en train d'interpréter un singe qui danse pour amuser son petit blanc et pour amuser la galerie. Qu'en pensez-vous ?
Bah, quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis entre les Afro-Américains et les Blancs, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure scène pour exprimer le racisme. Mais après, c'est que mon avis.
Moi, je trouve qu'on trouve un peu des métaphores de partout et que là, c'est un peu abusé quand même. Bon. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu du tout comme ça.
Quand on veut taper sur quelque chose, c'est assez simple d'aller chercher.
Je me demande dans le remake ce qu'ils ont fait à la place.
Ouais, est-ce qu'ils ont fait la même scène ?
Ils ne l'ont pas refaite. Ça vaut le coup de se renseigner.
Pourtant, c'est une des meilleures scènes du film.
Mm-hmm. Ouais. Moi, c'est la scène qui m'émeut à chaque fois. C'est bien au-delà de toutes les autres.
C'est la scène de partage, parce que c'est ça ce film. C'est le partage entre les deux. Chacun fait grandir l'autre. Chacun essaye de sortir l'autre de ses stéréotypes. Donc, Driss essaye de sortir Philippe de son handicap en lui proposant des choses pas forcément adaptées. Et Philippe essaye de sortir Driss de sa condition en lui disant « Si tu te bouges un peu, mon grand, tu verras, tu feras de grandes choses. »
Et puis le fait que les deux protagonistes, ils sont ouverts à la culture de l'autre, même dans la scène où il y a la musique de Earth, Wind & Fire, il y a tous les invités de Philippe qui commencent à danser, et pourtant eux ils connaissent pas Driss à ce moment-là, donc ils pourraient très bien repousser un peu cette musique-là qu'ils n'ont pas, je pense, l'habitude d'écouter, et que pourtant ils vont commencer tous à danser parce que c'est un rythme qui bouge et que ça leur, en fait, c'est un feel good, quoi, en fait.
Et puis Omar Sy dans cet anniversaire, mais dans le film aussi, c'est un vent de fraîcheur parce que François Cluzet, enfin Philippe le dit, que tout le monde fait semblant d'être surpris quand ils arrivent à leur anniversaire surprise, mais qu'en fait, dans le fond, tout le monde se fait chier. Et là, Omar Sy arrive et apporte ce vent de fraîcheur avec cette nouvelle musique beaucoup moins classique. Tout le monde danse, tout le monde se lâche. Et c'est, pour moi, c'est la force du film. C'est ce lien qu'apporte Omar et le personnage de Driss dans le film, parce que sinon, ça aurait pu être un film un peu d'auteur qui est primé au Festival de Cannes sur la vie des désespérante d'un tétraplégique machin, et là Omar apporte sa touche de folie et le personnage de Driss apporte sa touche de folie qui fait que le film devient beaucoup plus grand public et devient beaucoup moins lourd à vivre, et qui du coup la vie de Philippe est beaucoup moins lourde à vivre.
Exactement, et la relation, on l'a déjà dit, c'est donc inspiré d'une histoire vraie, donc quelque chose qui est arrivé entre Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Selou, c'est les vrais noms. Et du coup, ils ont vraiment matière à puiser dans la relation que ces deux personnes-là entretiennent pour le film. Il y a pas mal de choses qui sont reprises, des choses vraies. Après, il y a quelques petites modifications. Par exemple, Abdel Selou, dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui avait été incarcéré, qui était sorti de prison. Et c'est pour ça, en fait, que Philippe Pozzo di Borgo l'a pris sous son aile, entre guillemets, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui remettre le pied à l'étrier. Et à côté, comme on le voit dans le film, lui, il a été capable de donner un second souffle, en fait, à Philippe. Vous noterez donc que Philippe garde son nom, le personnage et la vraie personne ont le même nom. Abdel Selou, lui, il change, puisqu'en fait, ils avaient tellement apprécié Olivier Nakache et Eric Toledano au Omar Sy qu'ils ont décidé de retailler un peu le rôle sur mesure pour changer l'identité et en faire un Sénégalais, donc Driss.
Et en fait, il s'avère, moi j'avais vu que le duo originel a beaucoup travaillé avec Nakache et Toledano pour écrire le scénario, pour leur donner des anecdotes et pour construire le film avec eux, et que ce film n'est pas simplement inspiré, mais il est plus dirigé par une histoire vraie qu'inspiré par l'histoire vraie.
Et je pense que c'était très important, notamment pour les personnes handicapées, de voir une vraie représentation à l'écran, et pas seulement la représentation que quelqu'un peut se faire d'une personne handicapée, mais de vraiment avoir derrière ce que c'est, en fait, ce qu'ils vivent. Et si le sujet vous intéresse, les deux personnes, donc Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Selou, ont écrit un livre, chacun de leur côté, qui raconte un peu leur expérience. Et il y a également, il me semble, un documentaire et un film qui ont été faits à côté, donc pas romancés, des films vraiment sur ce qui se passe, si ça vous intéresse de creuser un peu sur le sujet.
Et c'est ce qui fait une autre force du film aussi, c'est que, clairement, tu le parlais, c'est pas une représentation d'un homme handicapé, c'est un homme handicapé qui parle de son histoire. Et donc on voit beaucoup de ressentis et de scènes de la vie quotidienne qui sont vraies, parce qu'elles ont été vécues, et qui nous aident à vraiment s'attacher au personnage et à comprendre la complexité du personnage.
Et puis tout ça est dédramatisé par un humour plutôt très fin, qui est basé sur pas mal de quiproquos, mais surtout sur des bonnes vannes. On notera la première qui nous met d'entrée dans le film. J'aime beaucoup les gens diminués lors de l'entretien pour trouver son assistant sanitaire. Mmh. Voilà, donc ça parle d'un gros sujet, mais tout en l'apportant avec une finesse grâce à l'humour, c'est merveilleux. Quoi.
Ou et celle sur les appels.
On est quasiment sûr qu'il l'a vraiment entendu, en plus. À mon avis, ouais. Il a dû faire des entretiens, ouais. Et c'est quasiment sûr que ça lui est arrivé.
Celle qui m'a fait rire aussi, c'est « Je suis très fort et très bon pour faire tout ce qui est papier administratif, genre les appels, comme l'aide au logement. » Bon, quand on voit dans le quoi il habite, je suis pas sûr qu'il est...
Je pense que vous en bénéficiez pas, mais vous verrez quand même.
Moi, il y a une scène que j'aime particulièrement, c'est la scène du parapente. Ouais. Du coup, Philippe et Idriss vont faire du parapente. À ce moment-là, moi, j'ai vu un peu une métaphore dans le sens où Philippe, du coup, comme il est, on va pas dire dénué de corps, mais de mouvement physique, ça va lui permettre de s'envoler, de prendre un peu de voler de ses propres ailes, on va dire un peu. Donc, du coup, de plus être forcément,
cloué à terre.
Cloué et toujours avec quelqu'un à son chevet pour l'aider. Et c'est aussi un peu une ascension pour les deux. Du coup, chacun va s'élever, culturellement, je ne sais pas comment on pourrait dire, peu ça. Voilà, ils vont chacun s'élever. Spirituellement, ils vont chacun s'élever à leur juste valeur. Et moi, j'ai vu un peu une métaphore là-dedans, dans ce sens-là. Mais après, je sais que c'est une histoire vraie. Du coup, ça s'est vraiment passé, l'histoire de parapente. Mais moi, j'ai vu ça comme ça. Quoi.
Mais après, il faut dire aussi que le parapente, c'est un moyen de rédemption parce que c'est à suite à un accident de parapente que Philippe est devenu tétraplégique et que du coup il renoue avec son cauchemar entre guillemets.
Il avait une certaine angoisse à remonter.
Et pour info, pour admirer les beaux paysages en parapente, ça a été tourné au Saisy et donc l'école de parapente qui a collaboré pour le film ne s'en gêne pas pour faire un peu de pub. Si vous vous baladez dans la station des Saisies, vous verrez les photos du tournage, parce que ce sont des vraies scènes et ce sont pas des incrustations numériques comme on pourrait le penser. Et donc tu parlais de cette très belle scène, il y a une très très bonne musique encore lors de cette scène qui est Feeling Good de Nina Simone, et on ne peut s'empêcher de vous la passer. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum
Le film intouchable va faire quelque chose que dans le monde du cinéma qui est assez répandu, c'est de commencer le film par la fin. Donc du coup avec on va dire la sortie de Philippe parce qu'il est à ce moment-là il est au plus mal physiquement. C'est quelque chose qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas commencer directement par la fin. Parce que ça peut tout bonnement un peu spoiler un peu l'intrigue. Là, moi, je trouve que justement, ça va un peu nous zapper dans ce film-là. Et je vais laisser la parole à Marge, du coup, qui avait une anecdote par rapport à ça. Non ? Pas par rapport à ça ? Ok.
Par contre, Kéliane en a une avec le permis de conduire.
Oui, c'était Kéliane, ouais.
Ah oui, c'était Kéliane, pardon. Ouais, ouais.
Alors, il y a beaucoup d'explications possibles, notamment tournées autour d'un mensonge. Mais en tout cas, on le sait que Idriss n'a pas de permis au moment où il est recruté par Philippe. Mais au moment où la scène se passe, donc à la fin du film, officiellement, il est censé avoir le permis, mais Philippe lui dit « il faudrait quand même que tu penses à le passer, ce permis ». Et donc, comment on le sait qu'officiellement il l'a, puisque quelques scènes avant, il se présente à un entretien d'embauche, et celle qui fait l'entretien, qui n'est autre que Joséphine Demeaux, qu'on retrouve encore une fois, lui dit « vous n'avez le permis que depuis un mois ». Donc, à savoir, est-ce que c'est vraiment un anachronisme, un oubli de scénario, ou tout simplement c'est
un énième quiproquo
entre Driss et Philippe, ou Driss et son CV, on n'en sait rien, mais j'ai remarqué ça.
Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette scène, puisque Driss fait l'expert en peinture, l'expert en art, puisque, encore une fois, Philippe l'a introduit au monde de l'art, et on a fait un artiste vendu, d'ailleurs.
Et est-ce que vous savez pourquoi les hommes s'intéressent à l'art ?
Parce que c'est la seule trace de leur passage sur Terre.
Parce que c'est un business.
Non, c'était plus beau comme elle a dit. Hein. Ouais, franchement, moi, je retiens plus...
C'est plus
c'était très beau, c'était très beau.
Moi, je retiens que si on n'est pas artistiquement, enfin, si on n'arrive pas à vendre, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est juste qu'on ne connaît pas les bonnes personnes.
Et oui, et ça s'appelle le monde de l'art contemporain.
Donc, si un riche mécène veut me sponsoriser, il n'y a aucun souci.
Je peux...
N'hésitez pas, écrivez-moi sur la page Instagram.
J'investis dans les pinceaux, je vous fais un tableau. Hein,
je te fais quelques croûtes.
Voilà.
Ouais, du coup, pour conclure sur ce film, je vais reprendre les propos de Marvin et ce Jad du fait que ce début par la fin nous hop, parce que ça nous montre la force de ce duo. C'est ce qui est noté à la fin, hein, que Abdel et Philippe sont toujours très proches, et c'est ce qu'on voit dans ce film, parce que c'est merveilleusement bien interprété par ce duo d'acteurs, donc Cluzet et Omar Sy, et voilà, c'est vraiment la beauté de ce film, quoi. Donc on va conclure sur ça et passer à la suite, je pense.
Et la suite, ça va être quoi, du coup?
Bah, la suite, c'est Hors Normes. Est-ce qu'on vous met tout de suite la musique, comme ça on se met dans le bain?
Oui, je pense.
Ouais.
Comme ça, on vous explique après de quoi ça parle.
Et donc, elle s'appelle Blood Flow.
Et elle est déjà passée à la radio.
Exactement.
Mais on vous la remet pour l'occasion.
Elle est passée dans l'émission de la rétro de 2019. Donc, si vous voulez en entendre parler, c'est à cet endroit-là. Ou restez ici avec nous. On se retrouve sur Ciné 7. Thank you.
Alors, comme on vous l'a dit, on a déjà passé cette musique dans Ciné 7, puisqu'on a déjà parlé d'En Normes dans la rétrospective de 2019. À ce moment-là, il n'y avait que Mervyn qui l'avait vu, donc il n'y a que lui qui en a parlé. On a été un peu mauvais élèves, et entre-temps, on l'a regardé, et on a bien fait, parce que c'est vraiment un super film. Alors, de quoi parle Hors Normes ? C'est l'histoire de Bruno et Malik, qui sont chacun gérants d'une association, qui sont respectivement La Voix des Justes et L'Escale. Et ces associations sont spécialisées dans l'encadrement et l'accueil d'enfants et d'adolescents autistes. Il se trouve que l'association de Bruno se retrouve dans le viseur d'une association de santé, enfin d'un comité de santé.
Jeunesse et sport ?
Ouais, non, pas exactement. Ça, c'est dans dans l'inspection générale des affaires sociales, qui lui reproche en fait d'employer des personnes qui ne sont pas habilitées à encadrer des enfants avec de tels soucis. Et ce film tourne en fait autour de toutes ces questions de l'encadrement.
Et de ne pas avoir de structure officielle aussi. Ils ne sont pas reconnus comme association.
Les locaux commencent un peu à craquer aussi. Tellement Bruno en fait veut faire le bien autour de lui et accueillir du monde. Qu'est-ce qu'on en a pensé ?
Bah moi je vais rebondir tout de suite sur la musique. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais pour la petite anecdote, quand j'ai regardé Hors Normes, à un moment j'ai tourné le dos à l'écran et quand cette musique est passée, je me suis retournée en disant mais qu'est-ce qui se passe, on est sur Intouchables ou pas, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon film, parce que je trouve que des notes sont un peu similaires, mais Marvin m'expliquait que pas tant que ça en soi, enfin c'était pas forcément voulu.
Voilà, en fait, la musique est sortie en 2017, donc ça avait rien à voir avec Hors Normes de base. Je pense que ceux qui regardent un peu la télé, ils savent que c'est la pub d'une célèbre enseigne de bricolage. Mais en fait, elle n'a pas été du tout faite pour Hors Normes, mais oui, je pense que les deux réalisateurs ont fait en sorte de prendre des notes qui ressemblent étrangement du coup à Intouchables. Peut-être pour toucher du coup le public d'Intouchables, pour dire on a fait ce film-là, on vous balance à peu près les mêmes musiques, avec à peu près, pas les mêmes acteurs, mais on va dire à peu près les mêmes genres d'histoires, avec une histoire en plus.
Ouais, c'est une musique puissante, mais pour l'anecdote, je crois que c'est une des seules musiques créditées pour la bande originale de ce film.
Elle est reprise plusieurs fois.
Ouais, elle revient souvent et en tout cas c'est la plus notable.
Bah, y a plusieurs notes, mais oui, c'est celle-là qu'on retrouve essentiellement dans le film, quoi.
Parce que du coup, en effet, il y a quand même un lien entre Intouchables et Hors Normes, c'est le sujet, donc comme je vous disais, celui de l'insertion sociale. On retrouve d'un côté les jeunes de cité, et de l'autre côté les handicapés, et ça va être un peu tout le jeu du film, pareil, de montrer l'harmonie entre les deux, et vas-y Jade, du coup.
Il y a un lien avec Intouchables, mais il y a aussi un lien avec Nos Jours Heureux, puisque je vous ai dit que Éric Toledano et Olivier Nakache se sont rencontrés en étant animateurs de colonies, et c'est au cours d'une de ces colonies qu'ils ont rencontré Stéphane Benhamou, qui est le créateur de l'association Le Silence des Justes. Et cette personne-là cherchait un média pour parler de son association, pour la promouvoir, ce qui a donné 20 ans plus tard Hors Normes.
Moi, je voudrais parler un peu des acteurs que je trouve magnifiques dans leur rôle juste. Donc du coup, on a Reda Kateb qui joue d'un côté le directeur d'une asso, et Vincent Cassel qui joue Bruno Haroche, qui joue aussi lui d'un autre côté aussi le directeur d'une autre asso. En fait, ils sont un peu, on va dire, collaborateurs entre guillemets. Je sais que Kéliane, tu n'aimes pas forcément Vincent Cassel, donc c'est un personnage assez atypique quand même. Mm-hmm. Il joue très bien, forcément. Je pense que moi, j'ai découvert je pense comme un peu comme tout le monde dans La Haine et Les Rivières Pourpres de Kassovitz, et j'ai beaucoup aimé du coup son interprétation, même si du coup je voudrais plutôt parler de l'interprétation de Joseph, donc qui est un vrai autiste à ce moment-là. Donc c'était son premier film,
ça se ressent,
il était assez stressé apparemment pendant le film, et il a dû être beaucoup accompagné pendant ce film parce que les autres handicapés, si je puis dire, sont assez peu présents dans le film. En tout cas, ils n'ont pas des longs textes au niveau des dialogues. Ouais. Mais Benjamin Lessieux, lui, dans le rôle de Joseph, est très présent. Il est, pour moi, je pense que c'est peut-être le troisième personnage qu'on voit le plus dans le film.
Ouais, je pense.
En termes d'apparition à l'écran. Et pour moi, il joue super bien. Même si, oui, du coup, c'est son vrai rôle, entre guillemets, il est vraiment autiste. Je trouve, il est super touchant comme personnage. Il a un toc, c'est qu'à chaque fois qu'il prend le train ou le métro, il tire toujours sur le signal d'alarme, et c'est hyper touchant en fait, parce que je pense que même si moi dans mon entourage perso, j'ai pas de personne autiste ou d'handicapé mental, mais je pense que pour les personnes qui ont un fils comme ça ou une fille qui c'est super dur, je pense, dans le quotidien, et que je pense que ça nous montre bien une facette un peu de tout ça que, on va dire, l'état des fois il cache un petit peu, quoi, comme on a vu dans le film, quoi. Mm-hmm. Il laisse un peu à l'abandon,
clairement. Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, Vincent Cassel, c'est un acteur avec lequel j'ai un peu de mal, humainement comme Enfin, surtout humainement. Après, en termes de rôle, c'est pas forcément des rôles qui m'attirent, mais effectivement, en tant que personne, j'ai du mal. Mais comme dirait ma mère, que je salue, c'est le film qui vous rend Vincent Cassel agréable et aimable, parce que vraiment, il a un rôle très puissant qu'il joue. Il est extrêmement juste dans sa manière de jouer. Et donc, c'est un film qui me l'a fait aimer, mais juste le temps de ce film-là.
Pour parler aussi un peu du casting, moi je vais aborder Alban Ivanov. Mmh. C'est un peu la chose qui m'a déçue dans le film, c'est le cliché juif.
Ouais.
Alban Ivanov est un très bon humoriste, je l'adore, il est à mourir de rire. Mais je trouve que dans ce film, ça dénote un peu l'humour un peu trop gras, le cliché un peu du juif comme ça. Enfin, c'est bof quoi, je trouve que ça dénote avec le tire-larme et l'autre humour plus fin qu'il y a dans le film.
C'est... Pour moi, c'est son problème à Alban Ivanov. Quand il sort du one man, il est trop dans le lourd et dans le gros trait qui dénote un peu du coup de ces one man qui sont assez pointus et qui du coup, ne le servent pas en tant que, personne, en tant qu'humoriste.
Je ne vais pas rebondir sur cette personne-là, mais sur le casting de manière générale. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, le casting est vraiment bien fait. Et notamment la scène où on entend la chanson qu'on vous a passée est juste incroyable. À la fin, où tous les enfants des associations, les deux associations confondues, font un spectacle de danse et dansent chacun. Et je trouve cette scène vraiment, comme tu disais, juste, touchante, pas trop. C'est pas non plus du tire-larme, c'est vraiment, on les met dans un environnement qu'ils n'auraient pas familier, et en fait on voit qu'avec un peu d'accompagnement, un peu de visibilité, ils arrivent à briller.
Non, c'est juste dans cette scène-là, du coup, comme l'a dit Jade, qu'on voit que Joseph, en fait, il s'épanouit dans un domaine qui lui plaît. Donc, dans ce film-là, il est passionné par les machines à laver, mais on voit qu'il est aussi, du coup, passionné par l'art du spectacle. Et moi, c'est là que j'ai beaucoup aimé, du coup, la scène, parce qu'on voit Vincent Cassel qui a les larmes aux yeux, tout simplement, et qu'on l'accompagne un peu dans cette émotion-là, et j'ai beaucoup aimé cette scène-là.
Ouais, on retrouve vraiment, je trouve, moi, la patte, la touche du haut de réalisateur, parce qu'on a vraiment une simplicité des scènes jouées. Notamment à la fin, c'est vraiment la fin qui m'a fait le plus pleurer de mon côté. Et on trouve un peu donc, ce qui a fait le succès d'Intouchables, des scènes simples et réelles, et avec un humour qui couronne le tout. Quoi.
Et finalement, c'est là qu'ils sont le mieux, en fait, quand ils donnent de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas d'ordinaire. Et ils l'ont fait avec Intouchables, ils l'ont fait avec Hors Normes. Et je trouve que c'est aussi là que le cinéma est le plus beau, quand il nous donne à voir quelque chose qui ne nous est pas familier et qui nous sensibilise sur une question qui ne nous aurait pas forcément interpellé, qui ne nous aurait pas intéressé, mais qui est si bien amené qu'on est obligé de regarder et d'apprécier.
Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le personnage de Bruno, dans le sens où, en fait, il donne tellement à tout le monde que lui, il en oublie sa propre vie. Il n'a jamais eu de femme, il n'a jamais eu d'enfant, il ne rencontre pas assez... en fait, il ne rencontre personne. Et quand son ami, alors je ne me rappelle plus, c'est Reda Kateb, mais je me rappelle Malik, ouais, c'est Malik, il lui présente, il y a un peu un micmac.
Des speed dating
Avec la sœur de l'acteur, enfin, Alban Ivanov, mais je ne me rappelle plus aussi de son nom, mais du coup, c'est la sœur dans ce
chef Custo.
Ah bon, c'est pas la sœur de Alban Ivanov dans le film?
Oui, mais c'est un...
À ce moment-là, du coup, il sait pas, en fait, il sait pas comment s'y prendre, en fait. D'ailleurs, il dit tous de couper son téléphone parce qu'il est tellement à chaque fois avec son écouteur dans l'oreille. Et pour moi, en fait, il arrive pas à se défaire de son rôle d'éducateur et de directeur d'association pour les personnes handicapées, qu'il en oublie sa propre vie. Et pour moi, c'est hyper triste, quoi. C'est hyper triste.
Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois pour Cinéma Paradiso, le choix entre la vie professionnelle et la vie privée, qui est au cœur de ça, parce que du coup, comme tu le disais, Marvin, sur les rendez-vous, il est tellement tout le temps coupé que il ne peut rien construire de durable.
Et c'est souvent ça, en fait, c'est les personnes qui donnent le plus, qui en fait n'ont plus de temps pour se construire à côté, parce qu'elles dévouent tout leur temps à la communauté et aux autres.
Excuse-moi, c'était juste l'expression, c'est ceux qui en moins donnent le plus ou quelque chose comme ça.
C'est
l'expression du coup, que je pense que c'est bien représentatif de Bruno.
Ouais, du coup, pour rebondir sur ce que disait Jade, je ne sais pas si vous, elle vous a autant marqué que moi, mais la scène où l'inspection est face à Bruno et où il lui explique clairement que son asso ne tient pas debout parce que ce n'est pas une association et qu'il ne devrait pas exister, et que Bruno démonte leurs arguments un à un en disant « Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là ?» alors que moi, je leur dédie ma vie entière. Et j'ai trouvé que c'était une scène très forte et très juste, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un statut ou des moyens, il suffit d'agir aussi des fois.
Et d'ailleurs, faites attention parce qu'on ne voit pas le verdict à l'écran avec les acteurs du rapport, en fait, de ces personnes de la santé. Mais à la toute fin, on a quand même un écran titre, en fait, du texte qui nous explique, qui met des morceaux du rapport, puisque c'est une histoire vraie. Et dans ce rapport, on nous explique que c'est une association qui donne tellement, en fait, à la communauté, qui est tellement importante d'utilité publique, qu'on la laisse ouverte, et du coup, on se doute que Bruno gagne son combat.
Après, comme c'est une histoire vraie, pour ceux qui sont un peu intéressés du coup aux deux personnages, enfin les vraies personnes, bah on sait que du coup que leurs deux assos représentatifs ont continué d'exister à travers le temps, donc du coup ça montre qu'ils ont bien gagné leur procès, enfin leur querelle avec les agents, quoi.
Et le film soulève aussi autre chose, outre le fait qu'il y a des personnes qui dédient leur vie entière pour les autres, ça soulève aussi le fait qu'en parallèle, il y a des personnes très égocentrées, notamment la scène sur le périph' où le jeune Valentin s'échappe et perturbe la circulation. On voit tout le monde s'énerver, lui hurler dessus, alors que là, on est quand même face à quelqu'un qui est en danger extrême et les gens n'ont pas d'autre chose à faire que de râler et d'essayer de l'éviter pour pas perdre une seconde de leur temps, quoi.
Paris, quelle belle ville.
Et puis, ils sont très pressés. Hein. Une critique de l'État aussi qui veut faire de ces personnes des invisibles et les oublier parce que c'est un peu ce qui est le plus facile à faire.
C'est ça.
Est-ce qu'on a fini avec les trois films ?
Pour moi, je pense
en
que oui.
On va conclure avec du coup le petit top. Donc, je vais d'abord commencer par Marge.
Ah, du coup, c'est un peu dur entre le 2 et le 3, mais je mettrai quand même en troisième hors norme. Parce okay. que c'est quand même un très beau film, mais je suis pas sûre de le voir, revoir et re-revoir. Alors que Nos Jours Heureux, que je vais classer en deuxième, me parle un peu plus. Et il est tellement drôle que je pense que je le reverrai dans les années suivantes. Et en premier, je vous ai un peu spoilé au début en vous disant qu'Intouchable, c'était mon film préféré de tous les temps. Donc évidemment qu'il est en première place et qu'il y restera jusqu'à ce qu'on ait un nouveau chef-d'œuvre de la sorte.
Kalia ?
Je vais prendre le même top que Marjorie, Intouchable, Nos Jours Heureux et Hors Normes.
Moi, ce sera Intouchable, Hors Normes, Je Fais la Différence et Nos Jours Heureux.
Et moi, ça sera Hors Normes, Intouchable et Nos Jours Heureux.
On n'est pas trop d'accord.
Ouais, on n'est pas d'accord sur...
Quoi qu'il en soit, les trois films sont extraordinaires.
Très bien, et le duo a vraiment fait, je trouve, une ligne entre les trois, parce que comme on disait, ils se rejoignaient un peu sur les sujets de l'insertion sociale, les gens un peu en difficulté, et on retrouve dans tous les cas leurs pattes du rire et des larmes.
Souvent dans leurs autres filmographies, on retrouve ça, de toute façon.
C'est le cinéma humain.
Exactement. De quoi on parle la semaine prochaine, Marvin ?
Alors, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet. Alors là, on a fait un peu quand même assez sérieux comme sujet. Bah, la semaine prochaine, on va parler de la quadrilogie Shrek. Du coup, ça va être très marrant. Il y a des super sons dans les 4 Shrek et ça va être bon délire, quoi. Vraiment, ça va être bon délire.
Mais préparez-vous, par contre, parce qu'on va vous mettre dans l'ambiance immédiatement.
Ouais, ça va être.
On vous laissera pas le temps d'une introduction.
Ça va être très, très bien. Des films qui sont assez simples à trouver parce qu'il me semble que le 3 et le 4 sont sur Netflix.
Ouais, mais du coup, le 1 et le 2, c'est les meilleurs et ils sont pas là, donc c'est dommage.
Mais je me demande s'ils sont pas sur Amazon à vérifier.
Peut-être. À voir, mais en tout cas, voilà, je pense qu'ils sont assez trouvables. C'est des films d'animation, c'est assez récent.
C'est incontournable, et puis au pire, ils repasseront dans tous les cas. C'est dans ça. L'année, oui, ils sont toujours diffusés. Ils passent souvent vers Noël
ou quelque chose comme ça, donc il n'y a pas de souci.
Donc on vous dira ça la semaine prochaine, et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission et de toutes les précédentes depuis la création de Ciné7 sur le site internet radioarchaise.fr et sur l'application radioarchaise.fr aussi. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Sur Radio RKS et sur Instagram ciné7_RKS pour avoir toutes les actualités et les résumés de toutes les dernières émissions, et vous pouvez retrouver la playlist de l'émission et des bonus sur la chaîne YouTube de radioRKS.fr. et nous, on se retrouve la semaine prochaine du coup avec un thème Shrek. Merci d'être là et à la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.